Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission L'Agité du local, la quotidienne de l'autre radio autour de l'actualité en Mayenne. Et je ne suis plus toute seule cette semaine, et oui, c'est le retour d'Andy parmi nous. Salut Andy.
Salut Marie, oui, je suis de retour pour une nouvelle semaine.
Ben oui, avec plaisir. Alors, un petit peu malade, mais ça y est, il est de retour à fond avec nous pour cette émission où on va parler aujourd'hui d'un nouveau portail pour les bibliothèques de l'agglomération lavalloise qui se veut plus pratique, plus intuitif aussi et plus facile, vous l'entendrez. On va aussi également parler de cette nouvelle édition du Festival des Reflets du Cinéma dédié cette semaine. Alors, pas tout à fait cette semaine puisque ça commence vendredi soir au cinéma de la Mer Noire. On détaille le programme avec Audrey Bénès, la directrice artistique d'Atmosphère 53. Et puis, on va retrouver un coup de cœur littérature avec Christophe Demiranjou. Et on commence là aussi, nouvelle semaine, nouveau feuilleton. On commence un nouvel épisode autour du club de roller de Marigné-Peton. Mais vous êtes habitués tout de suite. D'abord, on va faire un point sur l'actualité. Et oui, ça y est, plus besoin du masque en intérieur, Andy.
Et oui, dès aujourd'hui, au travail et à l'école, vous pouvez laisser tomber le masque comme dans tous les lieux clos, avec malgré tout quelques exceptions dans les transports collectifs et dans les établissements de santé comme les hôpitaux et les EHPAD. Le pass vaccinal disparaît lui aussi à l'entrée des restaurants, bars et cinémas, mais le pass sanitaire sera toujours demandé pour accéder aux établissements médico-sociaux. Et nouveau protocole aussi dans les écoles, tous les enfants d'une classe seront désormais déclarés cas contact si l'un de leurs camarades est positif. En élémentaire, ils n'auront plus à s'isoler, mais devront réaliser un autotest AJ+2, alors qu'au collège et au lycée, s'ils ne sont pas vaccinés, ils devront s'isoler pendant 7 jours et réaliser un test PCR ou antigénique.
Et en parallèle, les dépistages, eux, continuent.
Et oui, vous pouvez aller aujourd'hui à l'huisserie échanger, mardi à Mayenne et Argentrée, mercredi et vendredi à Laval, tandis que jeudi matin, ce sera plutôt du côté de Château-Gontier.
L'hôpital de Laval lève son plan blanc.
À partir d'aujourd'hui, conséquence, les opérations ne seront plus déprogrammées et les visites seront à nouveau autorisées avec 2 personnes maximum en même temps par patient. Mais le port du masque reste obligatoire pour tous, comme le respect des gestes barrières.
Trois nouvelles familles ukrainiennes sont arrivées hier en Mayenne.
Et oui, arrivant de Kiev ou d'Odessa, ils ont trouvé refuge dans la soirée d'hier soir au camping municipal d'Evron, qui leur est ouvert par le propriétaire des lieux. Chaque famille a donc son bungalow et la Banque alimentaire de la Mayenne fera le nécessaire pour subvenir aux besoins quotidiens.
Le centre-ville de Mayenne limité désormais à 30 km/h.
En effet, à partir de ce lundi, les automobilistes passant par le boulevard Anatole France devront circuler à 30 km/h maximum du numéro 26 au giratoire Jean Jaurès.
Et puis on passe au sport, c'est le 7e succès consécutif pour Laval Basket.
En National 2, samedi soir, les Lavallois ont réussi à prendre leur revanche du match aller contre Poitiers sur le score de 79-75. Grâce à cette victoire, l'US Laval se classe désormais 4e de sa poule. Et malheureusement, eux n'ont pas gagné. Fin de série pour l'étoile lavalloise qui a concédé sa première défaite de l'année en D1 de futsal face à Béthune sur le score de 7-4.
Et on espère bien sûr que les footballeurs sur herbe seront plus performants ce soir. Ce sera face à Châteauroux.
Et oui, toujours leader de National, le Stade Lavallois a l'occasion de frapper un grand coup sur la pelouse de la Berrichonne Châteauroux à 18h45. Un match attendu entre deux équipes qui visent la Ligue 2. Dans l'effectif Lavallois, pas de surprise, à noter tout de même les retours de François-Xavier Fumutamuzo et d'Ambroise Gboho.
Un nouveau site internet plus intuitif et plus joli, celui du réseau des 28 bibliothèques de Laval Agglo, est accessible dès aujourd'hui à la même adresse qu'auparavant, à savoir labib.aglo-laval.fr. Plus pratique avec de nouvelles fonctionnalités donc, et il était temps de donner un coup de jeune au portail de la Bib, explique David Kenneck, en charge de l'action culturelle pour les bibliothèques de Laval Agglomération.
Le réseau aujourd'hui, ce sont 28 établissements. En 2016, ils étaient moins nombreux puisque c'était avant l'élargissement de l'agglomération avec l'intégration de la communauté de communes de Loiron. C'est une des raisons importantes également de ce travail. 5-6 ans, c'est assez long pour un site internet. Et l'autre idée était évidemment de proposer de nouvelles fonctionnalités et une interface plus conviviale. On retrouve les mêmes rubriques. On a fait un petit travail d'édition en essayant d'y mettre le moins de mots possible. C'est un peu la tendance à chaque fois qu'on écrit en ligne ou sur papier de mettre beaucoup de mots. On a gardé le même principe. Donc il y a le catalogue, il y a les événements, l'action culturelle, un accès interactif au réseau, de nouvelles rubriques qui sont plus détaillées, plus conviviales sur les services adaptés, qu'il s'agisse de livres en grand caractère, de livres en langue des signes, voilà, des fonctions particulières. Également une part plus importante au visuel, des rubriques coup de cœur qui mettent en avant peut-être de manière plus visuelle le catalogue, nos nouveautés. Le réseau des médiathèques, c'est plus de 300 000 documents, avec un catalogue unique aujourd'hui et environ 14 500 nouvelles acquisitions par an. On peut faire des recherches, on peut chercher un titre en particulier, on peut savoir s'il est disponible, à quel moment, à partir de quand, on peut le réserver, on peut donner son avis, on peut afficher ses coups de cœur, on peut donner un avis sur un titre, et on a essayé que ces recherches permettent de rebondir sur d'autres titres.
Et puis un autre service mis en avant sur ce site, le portage à domicile qui s'est largement développé depuis le premier confinement. David Kenneck lance un appel aux usagers qui n'hésitent pas à donner leur avis sur ce nouveau portail. Des ajustements peuvent bien sûr encore être réalisés.
Et on va passer à l'interview sur la 25e édition du Festival des Reflets du Cinéma. Mais juste avant, petite pause en musique avec How Strange de Thomas Gerlet.
Never be the same, as if it was all a game. I perceive the end crawling up to you and me and me and you. Stood still under the rain. Sunday was praising for harmless pain. Melancholia will always be the end. And me and you. How strange to be 21. How strange to be anyone. What's worth in being a man when summer's almost gone? Oh, how strange to be 21. How strange to be anyone.
C'était écouter How Strange, Thomas Gerlet dans l'agité du local sur l'autre radio. La 25e édition du Festival des Reflets du Cinéma s'ouvre donc vendredi et ce seront les Reflets du Cinéma de la Mer Noire ce printemps. Une cinquantaine de films au total seront projetés du 18 au 27 mars dans 10 cinémas mayennais en même temps. On zoome sur les temps forts de cette programmation avec Audrey Bénès, directrice artistique d'Atmosphère 53, l'association qui organise le festival.
Il y a plus de 50 films, on est à plus de 45 longs métrages je crois, et en tout avec les courts métrages on est quasiment sur 60 films en 10 jours, donc du 18 au 27 mars. La thématique donc cette année, c'est les pays qui bordent de la mer Noire, à savoir la Turquie, la Géorgie, la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi l'Ukraine et la Russie. Évidemment, ça tombe tout à fait tragiquement dans l'actualité. En effet, on a réfléchi évidemment activement et on a décidé de maintenir la programmation dans son état, tout simplement parce qu'il nous semble important de ne pas confondre des artistes qui, quand ils font un film, ne concourent pas sous une bannière, ne concourent pas sous un drapeau, n'engagent pas une nationalité ou un régime politique, mais juste leur nom propre d'artiste. Et donc, on nous a souvent fait le rapprochement avec le sport, par exemple. En effet, il y avait eu des appels au boycott dans le milieu du sport. Oui, mais je le rappelle très bien, c'est très bonne comparaison, sauf qu'elle n'est pas du tout juste, puisque justement, une équipe de sport, elle a un maillot, elle concourt sous un drapeau, et elle porte donc un pays, contrairement à des artistes et des réalisateurs, là en l'occurrence. Donc c'était très important pour nous de ne pas boycotter, d'autant que dans ce pays-là, on sait quand même que le régime est assez compliqué pour que déjà être un artiste en Russie, c'est déjà une gageure en soi et c'est souvent des artistes qui se battent énormément pour pouvoir s'exprimer, qui ont même souvent bien du mal à s'exprimer librement. Et les œuvres qui nous parviennent, en tout cas en Europe, sont souvent les plus contestataires, qui sont souvent des critiques politiques et sociales, donc absolument pas de connivence avec le régime de Poutine. Je pense par exemple à Kirill Serebrennikov, qui est un grand metteur en scène de théâtre et réalisateur russe. On présente deux de ses films pendant les Reflets. Il a été assigné à résidence pendant plus de 8 ans, il est dans le collimateur du régime depuis très longtemps. Voilà, donc c'est un argument supplémentaire pour dire, mais en fait, ça n'aurait pas eu de sens que de bâillonner encore plus des auteurs qui déjà ont bien du mérite à réaliser des films dans ce pays-là. Donc pour ces deux raisons, il nous est apparu important de conserver notre programmation. Oui, il y a sans doute plus de films de la programmation dans ce festival qui sont russes qu'ukrainiens, mais ça représente juste une réalité de la production cinématographique où en effet, la Russie est une terre de cinéma ancestrale et très riche, qui produit beaucoup de films de grande qualité. L'Ukraine, en l'occurrence, produit beaucoup moins de films et a beaucoup moins de moyens et beaucoup moins de grands réalisateurs et metteurs en scène. Donc c'est aussi à l'image des productions des pays, bien sûr. Et notamment des invités aussi, puisqu'on reçoit quand même de nombreux invités. Et on a un réalisateur ukrainien qui sera là pour présenter son film « La cacophonie du Donbass ». Alors là, pour le coup, c'était prévu avant, mais là, ça va rentrer dans une résonance très, très particulière, puisque c'était un documentaire tout à fait passionnant qui explique comment on en est arrivé là et comment, en fait, le Donbass est une région symbolique, économique, et géopolitique très très forte pour la Russie, et comment du coup voilà pourquoi ça en fait une zone aussi aussi clé. Donc voilà, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, ça rentre encore plus en résonance, et donc son réalisateur Igor Minaev sera présent sur le festival pour en parler. Donc on a décidé de faire 4 focus, un sur le réalisateur russe Andrei Zviagintsev, qui est quand même un des grands réalisateurs et metteurs en scène russes actuels, contemporains. Ça me paraissait important parce que c'est quand même une zone qu'on connaît très très mal cinématographiquement, et avoir quand même un grand nom qui parle un petit peu plus aux gens, ça semblait important. Ensuite, on a fait un focus sur Sergueï Lonitsa, qui est un réalisateur ukrainien et qui est peut-être le grand nom du cinéma ukrainien de de ces 20 dernières années. Il a fait donc 3 films. À la base, lui, il est vraiment documentariste. Il a commencé vraiment par le documentaire. Et puis, il va de plus en plus vers la fiction. Et donc, il a réalisé notamment... Là, on va montrer ses 3 derniers films seulement. Donc, Une femme douce, Donbass et... Babillard Contexte. Et Babillard Contexte, c'est son dernier film, et c'est un documentaire à nouveau. Donc on a 2 fictions et un documentaire. C'est un réalisateur qui a une vraie réflexion et une vraie qui porte en fait dans ses films un vrai discours, c'est-à-dire qu'il a un discours politique très très fort. Et lui, par exemple, son propos et qui égrène comme ça tous ses films, c'est il pense que en gros, si à la chute de l'Union soviétique, si les pays avaient fait leur devoir de mémoire, leur travail de débolchevisation, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. De même que l'Allemagne nazie a fait son travail de dénazification. Lui, c'est un peu son propos, et on voit vraiment ça. Il porte ce discours-là, c'est un discours politique assez fort qu'on retrouve dans chacun de ses films. Un autre focus, du coup, la plus thématique, c'est un focus que j'ai appelé « Cohabitons », sur justement la xénophobie, les nationalismes montants et un peu justement cet appel à cohabiter avec l'autre et à ne pas forcément en avoir peur. Donc j'ai fait une sélection de différents films qui pouvaient correspondre à ça, dont un film turc qui s'appelle « Derrière la colline » où on est plus dans une ambiance un peu western, où on est dans un petit village très resserré, très refermé sur lui-même dans les montagnes turques, et d'un coup il y a des autres, quoi, qui viennent sans doute prendre possession des terres, mais tout ça est très mystérieux. On ne sait pas exactement où ça va, mais on sent bien, évidemment, c'est tout à fait métaphorique, hein, sur la peur de l'autre. Un film bulgare qui s'appelle Fear, la peur, sur justement toutes ces immigrations qui viennent d'Afrique et qui passent par la Bulgarie. Et donc là, c'est une sorte de western hivernal dans un petit village reculé de Bulgarie en noir et blanc, une sorte de Django Unchained au féminin, et de revenge movie. Enfin, c'est assez marrant, sur justement un migrant qui arrive, qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui passe par là. Et évidemment, personne dans ce village n'a déjà vu un noir, et donc ça leur paraît complètement fou. Et donc évidemment, là encore, xénophobie et racisme. Donc voilà, une thématique sur là-dessus. Et enfin, une autre thématique, attention corruption. Sur la corruption, il y en a beaucoup en Roumanie, il y en a beaucoup en Russie, mais pas que. Donc voilà, on découvre aussi des récits autour de ce thème-là, du petit patron d'entreprise qui essaye de faire marcher son petit pouvoir sur des ouvriers, carrément tout un gouvernement, avec notamment le film L'Affaire Collective, qui est un documentaire roumain sur un scandale étatique et qui est lié aux médias aussi, et comment les médias et les lanceurs d'alerte avaient fait un boulot incroyable pour révéler des scandales sanitaires qui émanaient de l'État. Donc voilà, à différentes échelles, mais des choses autour de la corruption. Et puis ensuite, voilà, on a classé notre programmation tout simplement par pays, pour recentrer comme ça. Donc vous pourrez découvrir des films des 6 pays que l'on a cités. Évidemment, il y a toujours environ 20 000 scolaires qui sont inscrits pendant le mois de mars sur les films en lien avec la mer Noire, donc en lien avec les reflets, chaque année, c'est-à-dire des élèves du CP, même des fois de la grande section de maternelle à la terminale, et qui peuvent voir des films adaptés qu'on a sélectionnés sur ces thématiques-là. On travaille aussi en étroite collaboration avec les différentes options cinéma de Laval, Château-Gontier et Mayenne, et Évron aussi, qui a une option art visuel, où là on propose aux élèves de ces sections-là vraiment des journées qu'on appelle d'immersion, où vraiment pendant une journée ou deux journées, ils sont vraiment intégrés complètement dans le festival, et ils voient des films toute la journée jusqu'au soir, et ils assistent à des rencontres aussi avec des invités, donc ils ont vraiment un accès complètement privilégié au festival, ils sont en immersion dans ce festival-là. On travaille également avec la licence pro. Il y a une licence pro conception de projet culturel dont le premier semestre est au Mans et qui dépend de l'Université du Mans, mais le deuxième semestre est à Château-Gontier. Moi, j'y donne des cours et en effet, j'encadre aussi un projet tutoré. Et donc, c'est un groupe d'élèves de la licence qui travaille sur le développement des publics du festival à Château-Gontier, par exemple. Donc, on les met sur des cas pratiques comme ça pour intégrer aussi des étudiants à ce festival-là. Puis vous parlez aussi sans doute de toute l'action culturelle, puisque en effet, je le disais au tout début, mais bien sûr, le cinéma reste évidemment la pierre angulaire de ce festival-là, mais on essaye évidemment de toujours tisser des ponts aussi entre le cinéma et d'autres arts, d'autres disciplines, d'autres partenaires, et de toucher aussi différents types de publics. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler... partenaire culturel, là ça va être évident, c'est qu'on va faire des ponts avec les saisons culturelles, le théâtre de Laval, le conservatoire, enfin voilà, pour intégrer comme ça des programmations théâtre, musique, cinéma, danse, pardon, et autres dans le festival. Et faire des liens, mais aussi on va par exemple travailler avec des CIAS et des CCAS ou des foyers pour proposer par exemple des ateliers cuisine où là on fait venir un chef qui fait découvrir des gastronomies de ces territoires-là et après on emmène les participants de ces ateliers cuisine voir un film un peu en lien avec la nourriture. Enfin voilà, on essaye de tisser comme ça des ponts pour emmener des publics qui n'iraient pas forcément au cinéma par eux-mêmes. Depuis 2 ans aussi, moi j'avais vraiment ça à cœur de travailler davantage en direction des publics, par exemple des demandeurs d'asile ou avec France Terre d'Asile, avec les UDA, avec les CAO, d'essayer de développer aussi des choses. Là, il se trouve qu'on risque de recevoir aussi beaucoup de réfugiés ukrainiens. Alors, peut-être pas en Mayenne immédiatement, je ne sais pas, mais en tout cas en France, c'est sûr. Donc voilà, essayer de tisser aussi des ponts avec ces publics-là. La grande soirée d'ouverture, qui est toujours un peu le grand moment festif comme ça du festival, et toujours de façon historique, se passe toujours à Laval, donc au Cinévim, le vendredi soir. Là, le film d'ouverture, qui est donc un film en avant-première, sera précédé de 2 ciné-concerts menés donc sur des petits courts-métrages sur lesquels donc des élèves du conservatoire ont créé un ciné-concert et donc ils vont pouvoir nous le faire découvrir en ouverture du festival avant donc en effet le film. Pareil en clôture, donc la clôture se fait toujours traditionnellement au Vox à Mayenne. Donc là, ce sera dimanche 27 à 20h. Et avant le film, là, on va accueillir un concert d'élèves aussi du conservatoire, mais de Mayenne cette fois-ci. Le film en avant-première, c'est un film qui s'appelle Dédale, d'un réalisateur roumain qui s'appelle Apetri. C'est un film assez fort. Et trouver le film d'ouverture, c'est toujours extrêmement compliqué parce qu'en même temps, il faut que ce soit une avant-première. Donc, un film qui va sortir en salle, mais qu'on n'a pas encore vu en tout cas en Mayenne et voire pas en France du tout. En même temps, il faut quand même que ce soit un film qui donne le la un peu à la programmation et qui soit d'une grande qualité cinématographique et en même temps qu'il soit quand même assez grand public, qu'il soit quand même assez ouvert, qu'il soit pas trop pointu et trop compliqué. Donc c'est toujours quelque chose d'assez complexe que de trouver ces films d'ouverture là. Et là, c'est un thriller, c'est un peu comme voilà sous forme un peu d'enquête. Donc il me semblait que ça. On essayait de proposer autre chose aussi, de proposer quelque chose d'assez accessible, même si au milieu, il y a une scène quand même qui est un petit peu difficile à voir, donc c'est pas pour tous les âges, mais ça devrait être, en tout cas pour le public adulte et adolescent, assez accessible.
Et en clôture, ce sera le film The Wailer Boy de Vladimir Onokov, qui sera donc proposé au cinéma Le Vox à Mayenne. L'ensemble de la programmation des films et des ateliers et expositions sont à retrouver sur le site lesreflets-du-cinéma.com.
Et on va passer à la chronique Emily Ranjou, mais juste avant, on va écouter Blue World de Mac Miller.
Thank you. crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, don't trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix.
Hey, one of these days, we'll all get by. Don't be afraid, don't fall.
Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil tryna call your line, shit, I always shine. Even when it light dim. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. It's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, this mad world made me crazy. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
Mac Miller dans l'AJT du local sur l'autre radio, c'est ce qu'on vient d'écouter. Et de la musique à la littérature, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir pour découvrir le coup de cœur du jour de Christophe.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Gabriel Filto-Shiba a été très remarqué pour son premier livre sorti en France qui s'intitulait « Encabané ». Cette auteure est québécoise et elle le revendique fièrement puisque c'est dans cette langue, donc le français québécois, qu'elle écrit ses romans. Son deuxième roman, sorti en France, s'intitule « Sauvagine ». Il vient de sortir aux éditions Stock. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, d'abord par la langue, parce que bien évidemment, vous savez tous que les Québécois n'utilisent pas toujours les mêmes mots que nous et ça donne une forme d'exotisme au livre. D'ailleurs, à la fin de ce livre, il y a un glossaire pour mieux comprendre ces mots utilisés au Québec qui pourraient par exemple nous faire défaut. Dans Sauvagine, nous allons suivre Raphaël. Raphaël travaille dans la forêt de Kamakuruska. Excusez-moi de la prononciation, c'est une forêt donc canadienne. Raphaël est garde forestière. Elle adore vivre seule dans sa cabane, dans sa caravane, avec son chien Coyote. Et elle essaye de réguler en fait la vie de cette forêt, notamment pour essayer de contrôler les chasseurs qui auraient la gâchette un tout petit peu trop agile. Eh bien, Raphaël va ici nous faire découvrir son environnement. Elle va nous faire découvrir sa forêt pourquoi elle a choisi ce métier. Et rien que ça, c'est une très grande bouffée de liberté. Sauf que ici, elle est un petit peu le caillou dans la chaussure des chasseurs, voire même des braconniers. Et voilà que Raphaël va être chassée elle-même, elle qui essaye de faire la chasse aux mauvais chasseurs. Eh bien voilà un livre haletant, un livre qui pourrait s'inscrire dans la lignée de nature writing, c'est-à-dire ces romans qui parlent de grands espaces. C'est un livre qui est presque une ode à la nature, mais aussi à la féminité, parce que Raphaël, dans sa quête de vengeance auprès de ce mauvais chasseur, va rencontrer d'autres personnages marquants. Voilà, découvrez ce livre qui s'intitule « Sauvagine » et c'est signé par Gabriel Filto-Chiba. Une excellente découverte.
Retrouvez « Aime lire » en joue, 10 place Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et une chronique inédite à retrouver demain et tous les mardis matins d'ailleurs dès 7h30 et toujours sur notre site l'autreradio.fr. On passe au premier épisode de notre feuilleton de cette semaine autour du club de roller de Marigné-Peton à 5 jours de la manche de Coupe de France de roller de vitesse à Château-Gontier. On s'intéresse donc à ce club du Sud Mayenne qui a près de 50 ans. Créé dans ce petit village, il a très vite accédé au haut niveau avec certains de ses patineurs. Ce sera encore le cas ce week-end à Château-Gontier avec plusieurs sportifs sur un circuit où nous avons rencontré au cours d'un entraînement Stéphanie Gandon, la présidente du club de roller de Marigné-Peton depuis 15 ans. Elle est aussi ancienne patineuse de haut niveau.
Moi, je suis arrivée bizarrement. En fait, mes parents habitaient à Marigné-Peton. Il y a fait le roller, j'ai essayé le roller et puis ça a marché tout de suite. En fait, voilà. Voilà. Et puis après, de donnant, c'est mes parents qui ont géré le club pendant un moment, pendant 20 ans. Et puis après, moi, j'ai pris la relève. Voilà, mes enfants aussi en font. Enfin, voilà, c'est une affaire de famille, on va dire. Alors après, le club existe depuis 1974, hein, donc avant ma naissance. Voilà. C'était en fait les anciens boulangers de la commune qui ont créé ce club-là. Voilà, parce qu'ils avaient vu ce sport-là en fait en Vendée. En fait, voilà, tout simplement, ils ont aimé. Et ils ont créé ce sport-là à Marigné-Peton. Après, on a eu la chance d'avoir la commune qui a suivi, qui a mis en place une piste de roller, parce qu'un club n'existerait pas s'il n'y avait pas d'installation sportive. Et après, avec notre niveau, on est devenu national et on est devenu communautaire. Donc en fait, communautaire, ça nous permet aussi d'utiliser les installations de la communauté de communes, entre autres le circuit routier de Château-Gontier. Plus de 10 ans qu'on utilise, voire facilement 15 ans qu'on utilise les installations de Château-Gontier. Il faut savoir que la piste de Marigné-Peton, dès qu'il pleut, on ne peut pas l'utiliser. Voilà, donc ça complique un peu, on n'est pas dans une région où il fait toujours beau. Voilà, donc on utilise beaucoup le circuit routier. Puis en plus, il faut savoir qu'avec la Coupe de France à Château-Gontier, il faut aussi s'entraîner sur ce circuit. Après, on utilise la salle de Ligny, hein, de près d'Anjou. En hiver, et on utilise aussi la salle de Cran, la salle omnisport de Cran. De toute façon, on n'a pas le choix parce que nous, en hiver, on a tout un championnat indoor, donc il faut bien qu'on utilise les salles. Donc si on ne s'entraînait pas en salle, je pense qu'on ne serait pas à un tel niveau. Notre club a bien fonctionné tout de suite. Dès le début de la création du club, il y a eu des médailles de championnat de France, et puis en fait, ça a perduré. C'est vrai que je ne sais pas si c'est un élan peut-être de groupe, et puis je pense que les petits voient les grands, et voilà, ça fait un enchaînement. Et voilà, puis pour Alexis, pour lui qui a fait un podium, il a eu son frère qui a fait aussi une médaille de championnat de France, qui a fait déjà deuxième au championnat de France. Donc c'est vrai que je pense que ça a aussi motivé à poursuivre son rêve, entre guillemets, parce que je pense qu'il a des capacités où il peut faire des bonnes choses. Sur la salle, on a fait des podiums de 4, on a fait des chutes, peut-être qu'on aurait eu d'autres podiums. Enfin voilà, la salle, c'est un peu aléatoire, si vous voulez. Il y a des chutes, beaucoup de chutes quand même, parce que voilà, ça va très vite. Mais après, on va emmener tout un groupe pour les championnats de France. On va au moins une dizaine, voire une quinzaine de personnes pour niveau national. De toute façon, s'il n'y avait pas une histoire de groupe, je pense que ça fonctionnerait pas. On peut être individuel, mais je pense qu'il y a l'entraîneur, certes, il y a l'encadrement, mais aussi les parents. Les parents, s'ils ne sont pas là, ça ne suit pas, on va être très clair. Voilà. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on a un groupe de parents plutôt motivés, qui sont toujours présents aux entraînements, c'est-à-dire qu'ils ne déposent pas leurs enfants qui repartent. Voilà, donc ils sont toujours là, ils sont là. Même s'ils n'ont pas, ils disent rien aux entraînements, ils sont là. On voit bien qu'ils accompagnent quand même le jeune. Donc ça, c'est important. Puis ils sont là pour les compétitions. Donc c'est vrai que c'est plutôt motivant d'avoir un groupe pour tout le monde.
Et c'était le cas effectivement aussi lors de cet entraînement à Château-Gontier auprès de la piste. Demain, on va s'intéresser aux différentes sections du club et à leur évolution. Ce sera donc dans l'épisode de mardi. Vous le savez, depuis le début du mois, on détaille le programme des semaines d'éducation contre les discriminations portées par le collectif UND, Unissons nos différences. Et aujourd'hui, retrouvez le ciné-débat A Good Man de Marie Castille, mention char. Donc ça, c'est le film qui est proposé au Cinéville à Laval à 19h. 19h30 ce soir avec l'association La Gomme 53. L'histoire, c'est donc celle d'Aude et de Benjamin, qui s'aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Mais Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d'enfant, alors Benjamin décide que c'est lui qui le portera. Un film donc proposé dans le cadre de ces semaines d'éducation contre les discriminations. Vous pouvez d'ores et déjà prendre votre place sur le site du Cinéville à Laval. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour aujourd'hui, lundi. Salut Andy, à demain.
Salut Marie, ouais, on se retrouve demain.
On se retrouve demain à 12h15, mais avant ça, bien sûr, à 19h, il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de La Sagesse de Tugue. Nous, on se retrouve donc demain midi. Je vous souhaite une très belle journée.